Bonsoir à tous et bonne heureuse année à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet aussi. Dieu vous bénisse. Le Seigneur est avec chacun d'entre ceux qui sont avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire ce soir Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 30. Je vais rester assis à cause du micro. Nous faisons notre réunion au château parce que les préposés au chauffage ne sont pas là ce soir. Je dis ça pour ceux qui sont sur Internet. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront, ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'envoyais du désert de Kedemoth des messagers à Sihon, roi d'Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, « Laisse-moi passer par ton pays, je suivrai la grande route sans m'écarter ni à gauche ni à droite. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. » C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sihon, le roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, souvent les prédicateurs n'osent pas aborder certains sujets parce que ils ont peur de ce que les gens vont dire. D'autres, ou les mêmes, ont peur que certaines personnes, en entendant la vérité, se mettent à parler d'une façon irrévérencieuse de l'œuvre de Dieu. Moi-même, pendant longtemps, j'ai hésité. Et puis, devant le cruel besoin des véritables enfants de Dieu, j'ai décidé de parler de ces choses dont on ne parle pas généralement du haut de la chair. Le prophète nous a dit qu'il y avait des pierres, c'est-à-dire des révélations, vous vous rappelez, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, là, représente les révélations. Il nous a dit qu'il y avait des révélations sur lesquelles la lumière n'avait pas encore brillé dans l'église des nations, et qu'elle avait brillé dans l'église primitive, mais que de nos jours, ces pierres, ces révélations ne sont plus dans la lumière que donne le Saint-Esprit. Alors, aux ordres, sous les ordres du prophète, nous allons donc chercher, puisqu'il a dit chercher, nous allons chercher ces pierres qui se trouvent dans l'obscurité, dans l'église. Pourquoi est-ce qu'on aurait des scrupules à prêcher que l'aveuglement et l'endurcissement des méchants est l'œuvre de Dieu? Mes frères et sœurs, nous devons avouer humblement que si Dieu ôte sa lumière, eh bien, il ne reste que l'obscurité et l'aveuglement. Avouons aussi humblement que s'il nous retire son esprit, eh bien, nos cœurs redeviennent des pierres dures. C'est la vérité. Si Dieu ne nous conduit pas, s'il n'est pas notre berger, nous ne pourrons que nous égarer. C'est clair. Il est bien écrit que c'est Dieu qui aveugle, que c'est Dieu qui endurcit, et que c'est Dieu qui pousse ceux auxquels il ôte la faculté de voir et d'obéir, de faire le bien. C'est Dieu. Alors nous pouvons ne pas comprendre et puis dire voilà, oh ben écoutez, on va pas étudier ces choses parce que c'est troublant, etc. Je pense que nous devons comprendre que Dieu est l'absolu souverain. Ça ne fait que glorifier son nom, et nous, ça nous met dans un repos de la foi totale. Personne ne règne à part lui. Personne ne le surprend. Personne ne l'étonne. Il se lève le matin en se disant, qu'est-ce que le diable a encore préparé? Dieu a des ministres, il y a des serviteurs, et parmi ces ministres, il a en particulier un de ses ministres qui est le ministre de son ire. Je vais parler français. Il est le ministre de sa colère. Dieu se sert du ministre de son ire pour exercer ses jugements. Le roi des Amoréens sortait en armes pour empêcher le passage du peuple de Dieu. Mais Moïse dit que c'est Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de ce roi et il avait fortifié le cœur des Amoréens, il avait confirmé leur cœur dans leur choix de résister au peuple de Dieu. Et tout cela pour finalement livrer le roi et tout le pays entre les mains des Juifs. Vous voyez ? Ça, c'est ce que Moïse enseigne à son peuple. Pourquoi est-ce que nous allons enseigner autre chose ? Pourquoi est-ce que nous allons enseigner autre chose ? L'obstination du roi des Amoréens, son obstination à faire le mal, a été pour le préparer à sa propre ruine, ruine à laquelle Dieu l'avait destiné. Point. Que nous enseigne Jésus ? Que Dieu ôte la parole à ceux... Pardon, c'est pas Jésus, c'est Job. Qu'est-ce que Dieu enseigne, nous enseigne par Job ? Que Dieu ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Que Dieu prive de jugement les vieillards. Job 12, chapitre 12, verset 20. Il nous dit aussi que c'est Dieu qui donne de l'accroissement aux nations, et ensuite il les anéantit, toujours le même chapitre, verset 23. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Alors, ils tâtonnent dans les ténèbres, ils ne voient pas clair, parce que Dieu les fait errer comme des gens ivres. Chapitre 12, verset 24-25, dans Job toujours. C'est qui fait ça ? C'est Dieu. Où est le diable dans cette histoire ? Où le diable fait-il sa propre volonté ? Où a-t-il un libre arbitre ? Pauvre diable. Le diable, il est à sa place d'exécuteur des ordres de Dieu. Il exécute ce que Dieu veut faire quand il est en colère. Il fait, en fait, la volonté de Dieu. Parfois, Dieu ôte le sens, même à ses propres enfants. Quand il a vraiment besoin de ça, il le fait. Ésaïe crie un jour à Dieu, il dit, « Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies ?» Ah bon, on est en train de errer loin de tes voies ? C'est pas notre faute, c'est toi qui nous fais errer loin de tes voies. « Pourquoi nous endurcis-tu le cœur contre ta crainte ?» Ah, c'est Dieu qui endurcit le cœur de son peuple contre la crainte de l'Éternel, c'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 63, 17. Vous voyez que ces choses sont écrites. Il faut les enseigner maintenant, ça suffit de toujours revenir à Bartimée, à Zachée, au figuier maudit et à toutes ces histoires qu'on connaît par cœur dans les églises. Il faut aller un peu plus profond dans les Écritures. Mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas quelles sont les règles du jeu, tu vas être troublé parce que nous sommes dans un combat spirituel et si tu ne connais pas les règles du jeu de ce combat, tu vas être troublé. Sache que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et il tient les cartes, toutes les cartes. Et il les distribue à qui il veut, comme il veut, quand il veut. On va lire Exode 4, 21-23. Ça vous plaît ? C'est drôle, hein ? Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel Israël, mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il puisse me servir, et si tu refuses de le laisser aller, voilà, voici ce que je ferai périr ton fils, ton premier-né. Quel jeu! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que Dieu voulait. D'un côté, il envoie Moïse vers Pharaon pour lui dire « Laisse sortir mon peuple d'Égypte. » Et d'un autre côté, il endurcit son cœur. Il lui dit « Il ne faut pas que tu endurcisses ton cœur, parce qu'ainsi dit le Seigneur, si tu endurcis ton cœur, eh bien, je vais prendre ton fils aîné. » Mais c'est Dieu qui endurcit son cœur. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y faire, le pauvre Pharaon? Où était son libre arbitre? Ces textes sont-ils écrits pour que nous apprenions quelque chose, ou sont-ils des exceptions par-ci par-là, qu'on ne doit pas étudier, et lesquelles on ne doit pas tirer d'enseignement pour notre vie? Ils sont là pour que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Ces textes sont là pour que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir. Ce ne sont pas des textes isolés, pas du tout. Ils sont ignorés par ceux qui doivent les ignorer. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Exode 10, 1. Et Dieu continue en disant, verset 2, « Je fais cela aussi pour que tu racontes à tes fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous, vous saurez que je suis l'Éternel. » Il fallait qu'il y ait des signes qui éclatent au milieu de l'Égypte. Et pour qu'ils arrivent, il fallait que le Pharaon endurcisse son cœur. Et Dieu ne s'est pas dit, « Oh là 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 là, pourvu que Pharaon endurcisse son cœur, parce que sinon je ne pourrais pas faire éclater mes signes. » Comment on va faire? Est-ce que Dieu a prié? Oh mon Dieu, fait... ah non, Dieu ne peut pas prier. Hein? Dieu a fait en sorte que Pharaon ait son cœur endurci. Il lui a endurci lui-même le cœur. Mes frères et sœurs, nous devons connaître les règles du jeu. Il y a deux forces en présence, celle du bien, celle du mal. Elles sont matérialisées dans cette création. Les forces du bien sont inspirées par Dieu. Les forces du mal sont inspirées par Dieu aussi, via le diable et ses démons. Et quand il le faut, Dieu peut aussi enténébrer momentanément les siens. On va lire Psaume 105. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Tu es alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans ce pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer, il châtia des rois à cause d'eux. Pourquoi personne ne put opprimer ce petit peuple naissant de Dieu? Parce que Dieu ne permit à personne de les opprimer à cette occasion-là. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ensuite, il est dit, il appela la famine sur tout le pays et il coupa tout moyen de subsistance. Pourquoi la famine arriva? Est-ce que c'est un coup du diable? Non, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a appelé la famine pour qu'elle vienne. Verset 17. Qui fit partir Joseph en Égypte? Il envoya devant eux un homme, Joseph. Il fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ah, c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Mais dans quelle souffrance? Est-ce que Joseph s'est rebellé? Est-ce que Joseph a dit, « Oh, mon Dieu, délivre-moi !» Jamais on voit Joseph prier comme ça. Jamais. Joseph a été vendu comme esclave, il était au plus mal, accusé ensuite de viol, jeté en prison. Ça a duré des années. Cherchez un verset dans la Bible où vous voyez que Joseph s'est plaint, a prié pour que Dieu le délivre, ces machins. Pas du tout. On continue. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, et il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Dieu a attendri le cœur des Égyptiens en faveur de Joseph, et alors il rendit, Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. C'est Dieu qui fit ça. Qu'est-ce qui se passe au verset 25? Puis Dieu changea le cœur des Égyptiens à l'égard d'Israël. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. C'est qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Verset 26. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang. Ils firent périr leurs poissons. Qui c'est qui a fait périr les poissons? C'est Dieu. Ensuite, vous allez voir, il y a des grenouilles, des poux, des mouches venimeuses, la pluie, la grêle, des flammes de feu. Qui c'est qui a fait venir ça? Il frappa leurs vignes, leurs figuiers. Qui c'est qui a fait ça? Il brisa leurs arbres. Il fit apparaître des sauterelles. Qui? Dieu. Il frappa les premiers-nés d'Égypte. Qui fit ça? Dieu. Et il fit sortir les Juifs du pays. Dieu est à l'origine de tout dans cette histoire. On ne voit, on n'entend jamais parler que le diable a fait quelque chose. Et pourtant, c'était des choses mauvaises. Dieu se sert de ses ministres et de ses serviteurs et de la nature entière. Il a des ministres du bien et d'autres qui sont préposés au mal, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. Dieu se sert des méchants sans se souiller lui-même de la moindre manière possible. N'est-ce pas écrit que c'est Dieu qui, en sifflant, fait venir les ennemis contre son peuple pour les châtier? Ésaïe 5, 26. C'est Dieu qui siffle. Et les ennemis arrivent. Tic, 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 tic. Comme des petits chiens qu'on siffle, hein? Pour châtier son peuple. Et ensuite, il fait venir le dépérissement parmi les robustes guerriers, donc les ennemis. Ésaïe 10, 16. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, ça doit nous conduire à l'humilité, à une grande humilité. Parce que dans nos cœurs, nous savons que Dieu est juste. Parce que dans nos cœurs, nous sommes soumis. Même si nous ne comprenons pas toujours tout quand les choses sont en train de se produire. Dans le monde, il y a ceux qui vont après la chair et qui méprisent l'autorité. La Bible nous dit qu'ils sont arrogants, qu'ils sont audacieux. Et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. On trouve ça dans 2 Pierre 2, 9, 12. On va le lire. 2 Pierre 2, 9, 12. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils injurient les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force, en puissance, ne portent pas contre elle, contre ses gloires, de jugements injurieux devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on pourrait porter des jugements injurieux contre les gloires si c'était des gloires qui faisaient le bien? C'est des gloires qui font le mal. Ce sont des gloires déchues contre lesquelles on aurait tendance à dire « Quelle saleté !» Mais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas que quand ils sont en train d'accuser le diable de tous leurs maux, ils sont en fait en train d'accuser simplement celui qui exécute les ordres de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, parce qu'ils sont aveugles, parce qu'ils sont arrogants, ils croient toujours avoir raison. Moi j'ai mon libre arbitre. Pharaon aussi. Satan aussi. Le ministère de ces gloires déchues intervient pour inciter les méchants. Est-ce qu'il n'est pas dit dans la Bible? L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14. N'est-il pas écrit que les mauvais esprits de Dieu saisirent Saül? 1 Samuel 18, 10. Frères et sœurs, il y a donc le Saint-Esprit de Dieu, avec les anges de Dieu, hein, les ministres de la parole de Dieu, que nous sommes, que je suis, et les mauvais esprits de Dieu, dont Satan et toute sa horde ténébreuse. Satan est à Dieu. C'est un mauvais esprit de Dieu. Ils ne font qu'exécuter tous. Ils ne font qu'exécuter la volonté de Dieu. Un jour, David jouait de la harpe. L'autre jour, on a regardé le concert du Nouvel An avec notre frère Boukari Kouadima. Et il a vu une harpe. Il n'avait jamais vu de harpe. Et c'est magnifique. Je dis, ben voilà, c'était ça que David avait pour jouer. Il jouait devant l'Éternel. La Bible nous dit, il louait l'Éternel avec des harpes, avec des cymbales retentissantes. Donc, il jouait avec une harpe, tranquillement, dans le palais. Et Saül, qui avait une lance à la main, lui jeta cette lance pour le clouer au mur. Qu'est-ce que dit la Bible? Oh, David a évité, un peu comme Bush, il a évité la chaussure. David, lui, il a évité la lance de Saül, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Est-ce que c'est le diable? Est-ce qu'il a évité une attaque du diable? Est-ce qu'il a vaincu le diable? La Bible dit que le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui avait sa lance à la main. 1 Samuel 19, 9. David n'insulta pas Satan et David n'insulta pas Saül. Ni le mauvais esprit, ni la chair dont le mauvais esprit s'est servi. David continua à servir Dieu. Vous voyez, les esprits immondes répondent donc au plaisir et au pouvoir de Dieu. Ils sont les instruments de sa volonté et non les auteurs du mal qu'ils font. On va lire 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie, donc l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est Dieu qui envoie à ces gens une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. Je ne l'invente pas. Mais certains vont dire, oui, mais Dieu fait cela parce que ces gens n'avaient pas reçu l'amour de la vérité, Michel. C'est quand même le verset 10 qui le dit. Oui, c'est vrai. Et pourquoi n'ont-ils pas reçu l'amour de la vérité? Parce que cela ne leur a pas été donné. Cela ne leur ayant pas été donné, ils ne pouvaient pas recevoir. N'est-ce pas Jésus qui dit, Dieu n'attire que ceux qu'il veut, Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi, c'est-à-dire à moi la vérité, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Comment voulez-vous qu'ils puissent recevoir la vérité, Jésus, si le Père ne les attire pas? Et si le Père les attire, comment se fait-il qu'ils ne reçoivent pas la vérité? Mais c'est impossible. Il y en a qui sont attirés et il y en a qui ne sont pas attirés. Êtes-vous attiré? Si vous êtes attiré, c'est bon signe. Alors, mes frères et sœurs, soyez comme des enfants. Dieu s'est fait connaître à vous et ce qu'il a commencé, il va toujours l'achever. Il a commencé par effacer vos péchés et tout ce qui vous arrive, vous avez compris que tout cela, ça concourt ensemble à votre bien. Donc, n'accusez personne, ni la chair, ni les mauvais esprits, c'est-à-dire les gloires déchues, ni Dieu. Ne l'accusez pas d'injustice. Mais qu'est-ce que vous savez au sujet de la justice? Hein? Ne murmurez pas. En toute chose, faites le bien que Dieu vous inspire. Laissez Dieu juger, le jugement ne nous appartient pas. Ne jugez pas. Voilà, il ne dit pas pourquoi, mais il dit ne jugez pas. Point. Ce qui va arriver cette année, 2009, ça sera sans doute pas facile. Mais reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. C'est pourquoi je vous prêche ces choses. Aimez en tout temps. Donnez et redonnez une chance à ceux qui vous offensent. En faisant ainsi, qu'est-ce que vous ferez? Vous montrerez que vous êtes de la lumière et non pas des ténèbres. C'est pas compliqué. Glorifiez Dieu en toutes choses. Et vivez en paix avec tous, dans la mesure du possible, dit la Bible. Hein, parce qu'il y a des fois, c'est pas possible de vivre en paix avec certaines personnes, parce qu'elles ne veulent pas. Mais vous, vous devez vouloir. Et c'est qui vous donne le vouloir? Et c'est qui vous donne le faire? Voyez, mes frères et sœurs, cette croyance profonde, mais qui n'est pas enseigné, parce que les pasteurs ont peur qu'en disant ça, on dit « Oui, c'est Dieu qui manigance, en fait, il n'est pas si bon que ça, l'air. » Cette croyance profonde, elle est utile à quiconque veut que Dieu soit le seul à qui revienne le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je te prie que cela reste gravé dans le cœur de mes frères et sœurs. Je te prie qu'ils réécoutent ce message, qu'ils s'en imprègnent, afin que dimanche leur cœur soit prêt pour ce que j'ai encore à leur révéler sur ces choses, et que nous puissions marcher non plus comme des enfants, mais comme des adultes spirituels, jusqu'au jour de ton retour, la tête haute, le cœur léger, sachant que tu tiens toutes choses, et nous en particulier dans ta main. Merci Jésus. Amen.